France Culture.
Question d'islam par Al Bensir. Aujourd'hui, nous parlons des relations entre l'islam et le bouddhisme. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ce sujet. Aujourd'hui, nous parlerons davantage sur des considérations métaphysiques, sur des points doctrinaux, sur un fond commun éthique et spirituel de ces deux grandes traditions religieuses, philosophiques, spirituelles. Nous verrons tout cela avec Éric Vincent. Éric Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes un éminent spécialiste du fait religieux, du spirituel, de la laïcité et des sujets apparentés. Vous dirigez l'Institut d'études bouddhiques, vous enseignez la bouddhologie, à la fois à l'Université catholique de Lyon et aussi à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Quand vous enseignez
La religiologie,
aussi à l'université de Bourgogne.
Tout à fait.
C'est dire que vous connaissez très bien ces questions et surtout cette relation entre l'islam et le bouddhisme, aussi bien à travers l'histoire que en ce qui concerne les enjeux cruciaux contemporains de paix de par le monde, mais aussi pour comprendre ces deux traditions. Alors, je ne sais toujours pas comment dire religieuse, spirituelle, philosophique, métaphysique, si je dois les englober toutes les deux. Je sais, mais nous le verrons tout au long de l'émission, que sur le modèle de « venons-en à une parole commune » qui a instauré un dialogue entre le catholicisme et l'islam d'une manière générale suite à l'épisode de Ratisbonne, il y a aussi un appel pour mettre en avant
un fond commun, oui.
Éthique et spirituel à l'initiative du Dalai Lama et du prince Ghazi de Jordanie. Et nous verrons tout au long de l'émission, encore une fois, les répercussions à la fois de cet appel et de ce qu'il en est. Et puis, avec vous, Éric Vincent, l'histoire. Et puis, qu'est-ce qui est commun à ces deux traditions? Et aussi, en dépit des divergences fondamentales et sur les points doctrinaux, qu'est-ce qui les rend irréductiblement l'une différente de l'autre?
Tout à fait. Et aussi, voir à quel point ce rapprochement, il est peut-être étonnant. On peut a priori considérer justement que vu l'importance de ces divergences doctrinales supposées et aussi réelles, que donc on n'a pas l'habitude de mettre en présence et en dialogue ces deux continents en fait, ces deux monuments de la culture humaine, religieuse, spirituelle, métaphysique, civilisationnelle, comme vous l'avez dit. Donc, en fait, il y a déjà cette prise de conscience que cette mise en dialogue ou cette rencontre s'impose, en fait, notamment par rapport à l'histoire, et donc le fait que ces deux traditions ont été pratiquement dès la naissance de l'islam, donc au 7e siècle de notre ère, en présence l'une de l'autre, dans le monde oriental, dans le monde asiatique, et que elles sont aussi présentes ensemble aujourd'hui en France. Donc il y a à la fois un élément de profondeur historique, mais aussi un élément d'actualité, dans le monde, bien sûr, pas toujours d'ailleurs pacifique, on le verra, mais en France, et là pour le coup beaucoup plus pacifique, hein, puisqu'on a un hexagone aujourd'hui qui est le pays d'Europe où il y a le plus de musulmans en part relative de la population, et le pays d'Europe où il y a le plus de bouddhistes en valeur absolue. Et donc, ne serait-ce que ce constat doit nous amener aussi à entreprendre ce dialogue pour constater à la fois, en effet, comme vous l'avez dit, des points de proximité ou de convergence spirituelle et aussi éthique, mais aussi des écarts, hein, peut-être un écart maximal entre un monothéisme qui se veut le plus pur, le plus affirmé, et puis un non-théisme, le non-théisme bouddhiste. Et je dirais, dans les deux cas, on a intérêt au dialogue. On a intérêt au dialogue pour remarquer à quel point on converge, en fait, et on a intérêt au dialogue parce qu'on diverge. Et que établir aussi cette sorte d'écart métaphysique maximal entre les deux traditions, à supposer qu'il soit avéré, fonde aussi l'urgence et la nécessité du dialogue.
Et comme on dit souvent, lorsqu'il y a une altérité aussi radicale, notamment d'un point de vue métaphysique et religieux, ce qui est supposé comme étant être l'écart insurmontable pour certains, en tout cas en prendre connaissance, devient le lieu de la médiation et de la rencontre.
Exactement, exactement. Et la rend justement, comme je dis, à la fois féconde, fertile, mais aussi urgente. Peut-être aussi pour éviter d'être dans une distance qui serait trop grande et qui conduirait potentiellement à des conflits ou dont on se servirait, hein, on instrumentaliserait cette distance doctrinale pour des visées politiciennes ou autres.
D'un côté, comme de l'autre, il n'y a pas lieu, alors on a toujours mis en avant la mise en garde contre un relativisme, un syncrétisme inopérant, une forme d'irénisme assez léger ou un sentimentalisme superficiel. Mais là, c'est toujours bon de revenir aussi à l'histoire. Je le dis sous votre contrôle, Éric Vincent, les toutes premières rencontres remontent à cette campagne menée par un certain Qasim ibn Mohammed. On est sous l'ère des Omeyyades en 711 et ce général, par la rencontre avec les bouddhistes et les temples bouddhiques, on est au Sindh, hein, donc envoie une lettre au gouverneur qui est resté en Irak, Hajjaj ibn Yusuf, lui dit « qu'est-ce que je fais ?» Après, c'est moi qui brode un peu, une sorte de consultation des religieux, des oulémas. On est parti sur l'idée étonnante pour l'époque, eh bien, on se comporterait avec les bouddhistes comme on doit se comporter avec les gens du livre.
Oui, oui, oui.
Alors, est-ce fondé de parler comme ça?
Oui.
Mais en tout cas, l'aspect historique de cette affaire a été raconté par le chroniqueur Baladouri. Je la rapporte telle qu'elle. Mais on dit qu'il y a tout un débat sur peut-on considérer le canon de Pali comme faisant partie d'une écriture.
De l'écriture avec un grand E. Eh bien, en fait, on est là, déjà dans le vif du sujet, en effet, de cette rencontre historique, donc multiséculaire, hein, donc une histoire très très longue et très complexe, en ombre et lumière. Moi, je pense qu'au fond, si on essaye de synthétiser en allant vraiment à l'essentiel, comme toujours quand on a affaire à des rencontres intercivilisationnelles, on a donc le pire et le meilleur, d'une certaine façon. On pourrait penser à l'exemple des croisades, bien sûr, hein. C'est-à-dire en effet des aspects guerriers, vous avez parlé de conquête, hein, pour celle du Sindh justement, et aussi des aspects d'interfécondation, de dialogue, de découverte mutuelle. Donc voilà, je pense que là encore, il faut avoir cette approche mesurée, équilibrée. On verra que les deux traditions insistent sur l'intérêt d'une position médiane, en quelque sorte, de quelque chose de modéré, d'une recherche d'un équilibre. Et donc, dans notre approche nous-mêmes de cette histoire, il faut essayer de garder, justement, de ménager ces deux aspects. Donc, rappeler que même avant la conquête du Sindh, il semblerait qu'il y ait eu déjà des contacts pacifiques, pour le coup, liés à l'expansion des marchands arabes à travers l'océan Indien vers les côtes du Gujarat, etc., de Malabar et autres. Et donc, dire les choses comme ça, ça permet de dire tout, que d'emblée, en fait, dès le début de l'histoire, dès le 7e siècle et le début du 8e siècle, on a les deux versants de cette histoire. Un versant conquête et un versant commerce, au meilleur sens du mot commerce, commerce des humains entre eux. En effet, et même pour ce qui est de la conquête, la question donc se pose, comment traiter, quand on est le conquérant musulman de ces régions, comment traiter les populations, sachant que jusqu'à Al-Biruni, donc qui est bien sûr un des grands noms qu'on doit citer quand on évoque cette histoire, peut-être le plus grand nom ou le plus important, le plus avisé, hein, le plus sage face à cette histoire complexe. Donc jusqu'à Al-Biruni, c'est-à-dire plusieurs siècles plus tard, hein, donc on sera au 11e siècle avec Al-Biruni, on est dans une forme d'incertitude de la part des conquérants musulmans face à ce qu'ils rencontrent. Ils ne savent pas bien distinguer les religions, les traditions auxquelles ils sont confrontés. Et donc la différence entre hindouisme et bouddhisme, qui pour les connaisseurs du sujet est importante et évidente, ne l'était pas pour eux, de même qu'elle ne le sera pas plus pour les conquérants occidentaux plus tard, hein, les Portugais, les Européens, anglais ou français, à partir du 16e, 17e, 18e siècle, qui eux-mêmes mettront longtemps pour distinguer les religions, sachant en plus que c'est là où on voit la complexité du sujet. Par exemple, la figure du Bouddha, donc bien sûr figure cardinale centrale du bouddhisme, est aussi un personnage vénéré dans l'hindouisme. Hein, ce qui évidemment rajoute à la complexité. Hein, les hindous et les bouddhistes vénèrent ensemble le Bouddha, mais pas de la même façon. Ils ne le comprennent pas de la même façon. Ce qui pourrait évoquer aussi d'ailleurs là, cette fois, la communauté et les divergences entre monothéistes, hein, où on voit par exemple les prophètes de la Torah vénérés simultanément par les juifs, les chrétiens et les musulmans, mais parfois compris différemment. Bon, donc c'est là où on pourrait dire aussi que réfléchir à la rencontre de deux traditions comme l'islam et le bouddhisme, au fond, ça fait jouer toutes les questions de fond de la rencontre interreligieuse. On va retrouver les mêmes difficultés théoriques, pratiques, notamment aussi celle de savoir de quelle forme de bouddhisme on parle ou de quelle forme d'islam. C'est surtout vrai pour le bouddhisme qui est peut-être encore plus différencié en interne que les différentes écoles islamiques. Et donc, là encore, quand on parlera de l'aspect doctrinal, vraiment, on verra que si on parle, par exemple, du bouddhisme du grand véhicule ou du bouddhisme dit Theravada ou d'autres formes encore de bouddhisme, voilà, les composantes de la rencontre, le regard qui est porté, notamment par les musulmans ou par des musulmans sur les bouddhistes, peut varier. Alors, ce qui est certain, c'est que, voilà, dès le départ, comme vous le rappeliez, il y a cette idée à la fois de peut-être traiter ces populations conquises comme des gens du livre, ce qui a beaucoup d'avantages, hein, et permet justement de construire des cités pacifiées. Hein, bon. En même temps, on doit reconnaître aussi que le point de vue inverse, finalement, qui condamne les populations concernées comme mécréants, comme adorateurs d'idoles, a aussi été très présent. Donc on a ce double mouvement et c'est là où en fait, pour être précis, il faudrait regarder période par période, région par région. On voit qu'on a affaire à une bonne partie du continent eurasiatique, hein, donc c'est évidemment immense dans le temps et dans l'espace, voir comment ces deux attitudes ont alterné en quelque sorte, oui, ou parfois se sont mêlées.
Hein. Vous avez tout à fait raison, et Éric Vincent, à l'évocation d'Al-Biruni et notamment de son grand ouvrage, Le Livre de l'Inde, on voit qu'il y a à la fois cette ambivalence et les deux aspects. Quand il s'agit de l'humain. On a le meilleur et le pire à chaque fois, et ce Exactement. Sont des traits de civilisation humaine, hélas. Civilisation au sens fort du terme, c'est pas la civilisation opposée à la barbarie
oui.
Comme on le dit. Il y a à la fois, alors, ceux qui tiennent à un aspect irénique mettent en avant ce précédent que j'ai évoqué. D'aucuns l'appellent l'accord de Brahmanabad, cette ville du Sindh, justement. Et comme j'ai cité l'historien Baladuri, il met en avant, parce qu'il a une copie ou même la lettre du gouverneur Al-Hajjaj de la province de l'Irak à son général pour dire qu'il faut respecter ces temples et les traiter comme des églises ou comme des synagogues. Et on a de l'autre côté... Et c'est resté dans l'histoire, les destructions de temples.
Exactement.
J'ai en tête le temple à Vallabhadi, déjà à la fin du 8e siècle, en 782, ou le temple de Nalanda, par un illuminé, un fanatique, Bakhtiyar Khalji, en 1193, on est à la fin du 12e siècle. Donc... On a les deux facettes, l'ombre et la lumière. Et si on veut continuer avec vous, Éric Vincent, un peu sur ce survol historique très très sommaire sur la tapisserie des siècles, d'aucuns mettent en avant à la fois l'empereur moghol Akbar et sa cour, quand il y avait à sa cour des jésuites, des rabbins, l'équivalent des oulémas et aussi des lettrés bouddhistes.
Bouddhistes, brahmaniques, donc hindous et aussi jaïns. En fait, la variété des religions représentées dans l'empire moghol. Hein. Et donc c'est là où on a aussi en effet au fond cette caractéristique de ce monde oriental, asiatique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire la variété religieuse, la complexité religieuse et culturel. L'islam est arrivé un peu comme un chien dans un jeu de quilles, si on peut dire, par la force de sa poussée, dans cette marqueterie de religion et de culture héritée de l'Antiquité, en fait. Hein. Et il a fait sa place, et en effet, avec cette ambivalence, hein, à la fois de création d'empire, création d'État, avec des moments tragiques. Hein. Je trouve que c'est intéressant de parler de Al-Biruni, notamment parce qu'il était donc lié au Ghaznévide, hein, donc Mahmoud de Ghazni, donc l'un de ses grands conquérants célèbre pour ses destructions en fait hein, de temples bouddhistes ou hindous ou jaïns ou autres, du pillage, voilà beaucoup de violence. D'autres dynasties, d'autres conquérants relèveront plus ou moins la même attitude. On parle aussi des Gourides, hein, qui seront auxquels succéderont la création du sultanat de Delhi, hein, qui est un peu le chaînon manquant justement entre cette période du milieu du Moyen-Âge et puis l'Empire moghol hein, dont vous parliez, la cour de Akbar, etc. Donc on a en effet dans, je dirais, le lien entre Mahmoud de Ghazni et Biruni, Al-Biruni, la tension entre deux attitudes, hein. Al-Biruni qui est un savant, un des plus grands savants de l'histoire de l'humanité sans doute, hein. Dans tous les domaines, un encyclopédiste, hein, et qui, quand il s'intéresse aux cultures, aux religions de l'Inde, le fait avec respect, avec un esprit distancié, soucieux de remarquer ce qui se ressemble entre l'islam et ses traditions locales indiennes, notamment bouddhistes, et aussi de rendre compte finalement de ce qui est des réalités rencontrées hein, telles qu'elles sont. Bon. Et en même temps, évidemment, voilà, ce grand savant est associé donc à une dynastie conquérante célèbre pour ses destructions. Et donc c'est là aussi où on a, je dirais, la complexité pour le coup de l'islam, en tout cas sur le plan des mélanges culturels, hein, l'influence arabe d'abord, puis la persanisation, hein, l'influence perse qui va être aussi une des composantes majeures de toute cette histoire, hein. puis la composante turco-mongole, et on sait que quand on dit turco-mongole, c'est souvent pour masquer une forme d'embarras face à la variété des peuples concernés, hein, avec une succession de conquérants. Pour une part, certains deviendront musulmans, hein, d'autres resteront soit bouddhistes, soit seront chrétiens nestoriens, soit resteront adeptes d'une forme de chamanisme, hein, qu'on appelle le tengrisme. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal en fait à s'y retrouver, hein, dans cette variété culturelle, humaine, etc. Et donc, on aura aussi l'implantation de ces groupes en Afghanistan. Donc quand on parle par exemple des Ghaznévides ou des Gourides, etc., on ne sait plus trop comment les qualifier. Donc certes, ils sont nominalement musulmans, mais dans leurs armées, qu'en étaient-ils, hein, et qu'en étaient-ils dans les armées de Tamerlan et d'autres grands conquérants, nominalement musulmans, mais qui, voilà, en même temps, donc pratiquaient des violences qui sont restées proverbiales, en quelque sorte. Et là, on en arrive aussi à une question de fond sur... que fait-on quand on associe une religion à un conquérant, hein? Est-ce que les conquérants, par exemple, ou les colonisateurs nominalement chrétiens étaient véritablement chrétiens, hein? Est-ce que les conquérants et les destructeurs nominalement musulmans étaient véritablement musulmans, hein? Quand on voit l'écart qu'il y a entre les valeurs pacifiques, les valeurs de contrôle de soi, les valeurs, l'idéal médian justement de voie moyenne et de miséricorde qui est présent dans l'islam, qui est central dans l'islam. Et puis, en effet, cette lutte contre l'idolâtrie, cette expression d'un exclusivisme monothéiste qui peut paraître parfois monstrueux, hein, il faut dire ce qui est, hein, mais qui n'est pas propre de l'islam, bien sûr, qui est... je crois plutôt le propre des conquérants. Hein. Et donc je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs de réfléchir aux Mongols de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand on voit ces peuples turco-mongols, en fait, quelle que soit leur religion nominale, ils pratiquaient des conquêtes aussi violentes, en fait. Hein. Donc c'est peut-être plutôt ça le sujet. C'est une violence d'un certain type d'organisation militaire, de razzia et autres. Et alors la religion qui est invoquée pour la légitimer, pour l'habiller, est secondaire.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons des relations entre, je mets des mots peut-être qui essentialisent, l'islam d'une manière générale et le bouddhisme d'une autre manière avec Éric Vincent. Éric Vincent qui est docteur en philosophie, spécialiste du fait religieux, du spirituel, de la laïcité et des sujets apparentés à tout cela. Il enseigne la bouddhologie à l'Université catholique de Lyon et à l'Université Jean Moulin III. Il enseigne aussi la religiologie à l'Université de Bourgogne et il dirige l'Institut d'études bouddhiques. Pour cette deuxième partie, pas pour finir, parce qu'on ne le finira pas, on parlait de la tapisserie des siècles et cette fresque historique très sommaire. Je n'ai pas évoqué, et peut-être que vous avez davantage d'informations que moi, sur l'arrière-petit-fils d'Akbar et de sa cour, c'est Darashikoh.
Darashikoh.
Qui était très intéressé à la fois par le bouddhisme et le jaïnisme. C'est pour toujours mettre en contraste, d'un côté, le comportement de conquérants parfois sanguinaires et fanatiques, et de l'autre,
exactement,
aussi
oui.
Des souverains qui l'ont payé de leur propre vie. C'est l'espèce, Aurangzeb, qui a dû sévir contre lui. qui était aussi d'une grande ouverture pour les autres traditions religieuses.
Tout à fait. Mais en effet, ça résume au fond notre échange, cette fraternité de sang entre Aurangzeb et Darashikou. Donc on est au milieu du XVIIe siècle. Deux héritiers de l'Empire moghol, l'un qui préconise le dialogue et la rencontre entre les religions locales, en quelque sorte, de l'Inde, et en particulier l'hindouisme et la forme védantique de l'hindouisme, donc la métaphysique la plus élevée, la plus subtile de l'hindouisme, et le soufisme, hein, et donc le versant mystique et initiatique de l'islam. Donc ça, c'est le côté de Darashikou, et en face, en effet, Aurangzeb, qui gagnera malheureusement, qui fera exécuter son frère, et qui imposera une version là d'un islam qu'on peut qualifier peut-être d'intégriste, bon, c'est un peu pour faire simple, hein, ou fondamentaliste pour faire simple.
Pour l'anecdote, il a interdit la musique et les joueurs de musique avaient enterré en procession dans un cortège funèbre les instruments de musique.
C'est dire voilà à quel point on est dans quelque chose de caricatural. Et voilà, en effet, cette histoire en ombre et lumière, elle a ses deux versants. Donc c'est important de parler en effet de Darashikou, qui est l'auteur de La rencontre des deux océans, hein, qui est cet ouvrage célèbre, une sorte de lexique commun ou de traduction des termes de la mystique musulmane et de la mystique hindouiste. Il semblerait que le bouddhisme soit moins connu de lui, mais parce qu'à l'époque, le bouddhisme, justement, avait quasiment disparu d'Inde, déjà. Donc voilà, c'est vrai que dans l'histoire de l'Inde et du bouddhisme et de l'islam, on dit souvent que l'islam conquérant, en tout cas dans sa version justement la pire, si on peut dire, celle dont Aurangzeb constitue une sorte de résumé, ce versant-là a donc mis un coup final à un bouddhisme entre le 12e et le 14e, 15e siècle, semble-t-il, qui était déjà bien fragilisé. Donc, il y a eu plusieurs phénomènes, en quelque sorte, pour fragiliser le bouddhisme, notamment le fait qu'il était déjà minoritaire en Inde et concentré dans des cités monastiques, comme Nalanda, que vous évoquiez tout à l'heure, hein, qui est la plus célèbre, et qui ont une durée de vie très longue. Mais une fois ces centres monastiques, et culturels, bibliothèques et autres détruits, bah le bouddhisme indien ne s'en est jamais relevé, en fait. Et donc, c'est pourquoi, en effet, quand on continue à avancer dans les siècles vers, à partir du 17e, 18e, etc., le dialogue, la rencontre mystique, spirituelle, sera surtout évidente et remarquable entre l'hindouisme et le soufisme, parce que le bouddhisme, justement, n'est plus présent en Inde. Alors, il est présent ailleurs, évidemment, hein. Et ailleurs, quand l'islam est lui aussi présent, il y aura, comme en Chine, par exemple, cette fois aussi, des échanges, des rencontres entre les deux traditions, si bien que... quand on évoque l'islam oriental, là aussi pour faire simple, alors d'Inde et d'Asie centrale, peut-être aussi de Chine, d'Indonésie, et on pourrait multiplier les exemples, on sent que c'est un islam qui a certaines couleurs, certaines nuances, qui témoignent de cette imprégnation orientale propre, civilisationnelle au sens général, mais notamment spirituelle, et où on peut peut-être dénoter une influence souterraine, hein, de ces spiritualités locales, préexistantes. Et on sait, par exemple, que dans les techniques, les méthodes ascétiques de tel ou tel ordre soufi, alors les chichtis, les Naqshbandi, pour parler des plus connus, les Halehak et d'autres encore.
Halehak, les gens de la vérité.
Les gens de la vérité, voilà. Et d'autres, les Kadiri, etc. Donc les grandes confréries présentes dans tout ce monde oriental, on va retrouver des résonances tout à fait frappantes, à la fois en termes doctrinal et en termes aussi ascétiques, on pourrait presque dire yogiques, hein. Donc, des choses qui s'apparenteraient à des formes de pratiques yogiques liées au travail sur le souffle, hein, la méditation silencieuse, même des postures dans certains cas, des postures de méditation, d'intériorisation, bien sûr le dhikr, hein, ou zikr, donc l'invocation, hein, qui a son pendant tant dans l'hindouisme, le jainisme et le bouddhisme, hein, qui montre que les spirituels, les mystiques, les derviches, comme on les appelait aussi, ou les sadhus, les renonçants de toutes ces traditions, se reconnaissaient entre eux, se fréquentaient, se sont interfécondés. Et justement, il est très important de parler de ces deux versants. Voilà, le versant, je dirais, le plus visible, le versant des constructeurs d'État, des conquérants, des destructeurs aussi. Et puis ce versant non moins important de ceux qui s'intéressent à la voie spirituelle, à la recherche de vérité. Et ce qui nous amène vraiment aussi à la question doctrinale, en quelque sorte. On l'évoquait en début d'émission, le grand écart qu'il y aurait entre le monothéisme pur, hein, l'islam aime à se décrire comme tel, et puis le non-théisme bouddhique. Au fond, on pourrait dire toujours la question est de savoir ce qu'on entend par théisme. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot de Dieu, hein? De quel Dieu parle-t-on? Si on insiste sur l'unité, on sait à quel point, là encore, l'islam, le Tawhid, vraiment souligne cette importance, cette vocation unitaire de la religion islamique et de la révélation mohammedienne. On voit aussi que dans le bouddhisme, par d'autres voies, d'une certaine façon, par une voie non théiste, on arrive aussi à cette préoccupation de l'unité. Voilà.
Nous avions évoqué des hommes d'empire, des constructeurs, des destructeurs. Il y a aussi ceux de la plume et de l'écriture, de la pensée. Je pense au moins à deux d'entre eux, Wang Dayu et un autre, Lin Ji, avec le livre Han, ou le Han, l'écrit de Han, et dans lequel il y a les similitudes qu'on voudrait, sans vouloir forcer le trait, établir entre les deux grandes traditions, parfois aussi ces divergences, mais qu'en creusant un peu, on peut trouver quelques analogies. Alors, c'est vous qui savez mieux que moi ces choses-là. Paraît-il que davantage dans le Mahayana, il y a une forme de transcendance personnelle, mais qui n'est pas tout à fait explicite et verbalisée, contrairement au Theravada. Et ce qui était aussi l'objet de débats, pour ne pas dire controverse, c'est peut-être l'idée du... Vous allez nous expliquer ça davantage, le Nambutsu, qui est une vénération du Bouddha, céleste en tout cas, et le fait de s'y référer. Alors, certains soufis musulmans y ont trouvé une forme d'abandon paisible et confiant à Dieu, donc le tawakkul, pour dire le terme dans sa traditionnelle. Ceci, en tout cas, a émaillé les rencontres entre musulmans et bouddhistes, notamment en Eurasie.
Tout à fait. En fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question des différentes formes de bouddhisme et comment cette question vient paramétrer l'échange entre l'islam et le bouddhisme, bien sûr. Pour ce qui est du Theravada, hein, donc des formes du bouddhisme qui dominent Ceylan, la Birmanie, la Thaïlande, enfin l'Asie du Sud, on a, je dirais, une proximité surtout liée à l'éthique, à l'insistance sur la sobriété. Hein. Le Theravada est une voie qui est axée sur la voie monastique, hein, l'idéal monastique. Et on sait que dans l'islam, il y a même des fondements scripturaires, hein, je crois dans la sourate de la table dressée, pour le respect des moines, hein, en l'occurrence chrétiens. Mais le verset coranique permet...
C'est le verset 82 de la sourate 5 qui dit en substance « Tu trouveras ceux qui sont proches des croyants par l'amitié, sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, car il y a parmi eux des prêtres et des moines Exactement. Dont le cœur ne s'enfle pas d'orgueil et dont les yeux s'inondent de larmes quant à la récitation de la parole de Dieu. » Bon, c'est vrai que ça concerne davantage...
Voilà, ça concerne explicitement les chrétiens.
Les chrétiens, mais on a étendu le caractère monastique.
Exactement. Les sages de l'islam, dans cette logique justement d'ouverture du cœur et de l'esprit, par exemple, sont appuyés sur ce verset-là pour dire, quand on a affaire à des moines bouddhistes, au fond, ils ont les mêmes qualités que les moines chrétiens. Hein. Donc là, c'est pour l'aspect theravadine. On pourrait aussi insister sur la figure du Bouddha, justement, et dans le Theravada, donc la figure centrale est celle du Bouddha Gautama, du fondateur du bouddhisme, comme étant un prophète potentiel. Et là aussi, on sait que dans l'islam, on a beaucoup d'appuis scripturaires et aussi dans la sunna, parmi les hadiths, pour affirmer que Dieu a envoyé à chaque peuple des envoyés, justement. Alors, le statut de ces envoyés peut être questionné, prophète, ou employé d'autres termes. Toujours est-il que ça permet un rapprochement. Bon, pour ce qui est du Theravada. Ensuite, on a, du côté du Mahayana, l'insistance sur l'amour et la compassion, qui sont aussi donc des vertus éminentes, chères au cœur des musulmans spirituels. On sait bien que ce qu'on a traduit par miséricorde, Rahma, est aussi voilà tellement central pratiquement dans chaque invocation quotidienne musulmane, on retrouve l'affirmation de cette importance, certes de l'unicité divine, mais aussi de la miséricorde qui la caractérise. Et là, quand on voit que le Mahayana insiste, lui, sur ce qu'il va appeler Maitri et Karuna, donc on traduit par amour et compassion, là encore, rencontre. Hein. En effet, dans le Mahayana, on va avoir aussi, certes, la vénération du Bouddha Gautama, mais aussi d'autres aspects de l'éveil, personnifiés ou non. Ça peut varier selon les courants et selon les types de chemins ascétiques suivis. Dans ce cas-là, en effet, la distance apparemment insurmontable entre un bouddhisme non théiste et un islam monothéiste pourrait sembler s'amenuiser. Parce qu'au fond, toujours la question arrive, mais qu'est-ce que vous appelez Dieu, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire par ce mot? Et au fond, ce que les bouddhistes appellent nature de l'éveil, ou nirvana, ou shunyata, donc par exemple vacuité, est-ce si différent de cette transcendance, immanence absolument ineffable, indescriptible, hein? Et là, en effet, on remarquera que des deux côtés, de part et d'autre, hein, des sages de l'islam et des sages bouddhistes, tibétains notamment, vont souligner cette unité, bien sûr, il faut être très prudent en la matière, mais en tout cas, similitude, résonance, un point de fuite en quelque sorte, une perspective lointaine, hein, on dit que tout ce qui monte converge, hein, ces ascètes, ces spirituels qui cherchaient une authenticité, une vérité du cœur dans un engagement de chaque instant, par des pratiques parfois comparables, évidemment pouvaient se rencontrer, hein, et vous parliez du Nembutsu par exemple, qui est l'une des formes en effet de au fond des prières répétitives, hein, qui sont communes à toutes les formes de bouddhisme et d'hindouisme, et j'allais dire de religion, puisque au fond, là encore, les musulmans les plus pieux pratiquent ces invocations, les bouddhistes les pratiquent, les autres peuples les pratiquent aussi. Hein. Donc on voit à quel point rapprocher deux religions, comme le bouddhisme et l'islam, nous conduit aussi à spontanément à élargir la perspective pour arriver en effet à alors ce sujet d'études religiologiques, hein, et au fond anthropologiques, qui est l'homo religiosus, hein, qui est l'homme en tant qu'il est religieux, qu'il est spirituel, et que partout et toujours, il est confronté aux mêmes problématiques, et il est confronté aussi aux mêmes ressources, et qui permettent justement d'établir des ponts à travers les pays et les siècles.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec Éric Vincent, nous parlons des relations entre le bouddhisme et l'islam. Et Éric Vincent est un fin connaisseur de ces sujets de par sa formation. Vous êtes docteur en philosophie, Éric Vincent. Vous êtes spécialiste du fait religieux, du spirituel, de la laïcité, de tous les sujets apparentés à tout cela. Vous enseignez la bouddhologie à l'Université catholique de Lyon et à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Comme vous enseignez aussi la religiologie et vous dirigez l'Institut d'études bouddhiques. Pour cette dernière partie, il y a eu bientôt 6 ans de cela, peut-être même 7 ans, un attentat dans une pagode au sud de Thaïlande, perpétré par deux extrémistes islamistes violents. Et c'était aussi l'occasion, suite à ce crime, pour que des hiérarques musulmans et aussi des dignitaires bouddhistes se rencontrent, parlent, et ils se seraient mis d'accord sur une sorte de charte en 7 points. Mmh. Je vous l'ai dit très brièvement, qui est bien sûr la croyance en la vérité, la réalité ultime, absolue, source de la grâce et de la guidance pour les humains, rendre compte, en vertu d'un principe de justice, de ce qu'on fait, exercer la compassion et la miséricorde envers tous. Le 4e point est croire que les êtres humains sont capables de connaissances, et parfois suprarationnelles. Le 5e point, la possibilité d'être sanctifié, il y a une aspiration à la sainteté. L'importance de la pratique spirituelle, c'est le 6e point. Et le 7e point, la nécessité du détachement du monde et des désirs passionnels.
Oui, c'est une magnifique synthèse, en effet, d'un certain nombre de points que nous avons soulignés, hein, de convergence, de rapprochement. Et quelle signification, en effet, que des artisans de paix bouddhistes et musulmans, et peut-être aussi d'autres traditions, se soient regroupés suite à ce crime que vous évoquiez, pour justement, eh bien, par un surcroît de sagesse et de pacification, venir guérir, venir réconcilier ceux qui ont été frappés, hein, par la haine, qui bien sûr déforme, manipule, abuse des identités religieuses, et en fait des poisons, hein. Donc, bien sûr, là, on voit un certain nombre de points de rapprochement, hein, qu'on a évoqués, cet idéal aussi de la voie médiane. Hein, au fond, les deux traditions, elles ne sont pas les seules d'ailleurs, mais la tradition bouddhique et la tradition musulmane aiment à souligner l'importance de cette modération, hein, de cette voie du milieu, cette recherche d'un équilibre entre les extrêmes, et qui se traduit dans tous les aspects de la vie, explicitement religieux ou non, et qui font que, là encore, l'essentiel est commun, je pense, entre l'islam et le bouddhisme. Je pense que c'est peut-être ce sur quoi on peut insister. En dépit de points de départ qui semblent les plus opposés possibles, hein, donc un monothéisme strict d'un côté et un non-théisme strict de l'autre, on voit que, au bout du compte, c'est plutôt le commun qui domine, hein, pour l'essentiel, hein, et c'est ça qu'on doit retenir. La sagesse, comme l'olivier du Coran, n'est ni d'Orient ni d'Occident, hein, ou elle est des deux à la fois. Et elle permet justement cette rencontre subtile où la différence n'est pas un problème. Hein. Elle est une richesse. Elle permet de révéler des aspects différents d'un même mystère. Hein. Donc, bouddhistes et musulmans cherche à entrer en communion avec ce mystère du réel, hein, avec un grand R, hein, cette réalité ultime, en soulignant ses aspects, on pourrait dire personnel, et ses aspects impersonnels, par exemple. Hein. On sait bien que, d'un point de vue doctrinal, le non-théisme bouddhiste essaye en fait de mettre en garde face à un certain anthropomorphisme. Et là-dessus, l'islam serait assez à l'aise. Hein. On sait bien que la question de l'idolâtrie, justement, ou de l'associationnisme, hein, que certains ont reproché au bouddhisme, en fait, si on est bien vigilant, on verrait que dans le bouddhisme, précisément, il y a un rejet hein, d'un certain anthropomorphisme naïf par rapport à l'absolu, hein, divin, ou encore la critique de l'idolâtrie, hein, qui est commune là aussi à tous les sages. Hein, tous les sages, tous les docteurs des différentes traditions savent bien que les symboles sont des doigts qui montrent la lune, mais ne sont pas la lune eux-mêmes.
Voilà. Bien entendu. Pourrait-on dire que, en respectant le corps de doctrine propre à chaque tradition, que la diversité des dogmes et des rites relève, allez, selon la cohérence de la théologie islamique, d'un plan divin, parce que un Dieu omnipotent, omniscient aurait pu cloner les êtres humains et faire d'eux qu'une seule communauté.
Exactement.
Mais ça participe d'un plan, c'est à dessein oui. qu'il y a une telle diversité, auquel cas il faut respecter ces différents canaux pour la transcendance, en tout cas des canaux spirituels différents. En revanche, la sagesse qu'il peut y avoir est commune à l'humanité. Un musulman ou un non-musulman, d'ailleurs, peut être sensible à l'enseignement d'un Nagarjuna, par exemple.
Exactement.
Ou de tout autre moine.
Et de même que n'importe qui peut être sensible à la parole de sagesse d'Ibn Arabi ou de Rumi, et à la beauté aussi des formes esthétiques, poétiques, ou musicales, ou autres, ou architecturales, qui ont été inspirées par ces différentes traditions. Donc là encore, c'est vraiment la résonance et la richesse partagée qui doit dominer et constater que l'islam, en effet, parmi les monothéismes, est l'un de ceux qui insiste le plus quand même sur cette richesse humaine et cette volonté divine de ne pas unifier toutes les cultures, tous les groupes humains en une seule religion, hein, mais au contraire de leur permettre de déployer différents reflets, différents chemins qui peuvent en effet converger sans se confondre. Hein. Donc là, c'est là où on a toujours en effet cette question du même et de l'autre, hein, la dialectique entre le même et l'autre. Et remarquer que ces rencontres produisent des merveilles culturelles. Hein. Je pense aussi à au livre de Balawar et Boudazaf, hein, qui est un exemple au fond extrêmement complexe, une histoire presque qu'on ne peut pas raconter, notamment à la radio en peu de temps, mais de rencontres entre le bouddhisme, puisque la source de cette histoire est bouddhiste, hein, c'est au fond le récit de la vie du Bouddha, et qui est passé à travers différentes médiations, peut-être manichéenne, puis arabe et islamique, puis en Géorgie, puis le christianisme oriental, syriaque, puis latin, etc., etc., a fini par donner donc l'histoire de Balaam et Josaphat. Ce qui nous permet de dire que les églises chrétiennes ont célébré le Bouddha comme un saint chrétien, ce fameux Josaphat, grâce à la médiation de l'islam. Ce qui est un résumé extraordinaire de cette convergence de sagesse et de culture et de beauté.
Alors, comme le temps passe et nous nous approchons du terme de l'émission, comment se fait-il, cher Éric Vincent, que voilà, deux traditions religieuses, spirituelles, philosophiques aussi, qui insistent sur la purification, si je puis dire, de l'esprit pour vaincre les attitudes négatives, que tout être a droit au bonheur et il doit s'éloigner autant que possible de tout ce qui est source de souffrance. Le bouddhisme est un système fondé, basé sur la pratique de la compassion. l'idée d'un Dieu compatissant et miséricordieux est centrale dans la tradition religieuse islamique, et que de nos jours, et pardon d'y revenir, alors que nous avons parlé de ces belles choses, que dans la Birmanie, enfin Myanmar maintenant, il y a tant d'incompréhensions en s'arc-boutant sur qui finalement occasionne tant de souffrance et de détresse.
Ben, je pense qu'on a... Il y aura beaucoup à dire, évidemment, sur votre question, notamment la question du religieux. Le religieux, la religion en tant que telle, me semble une institutionnalisation sociopolitique du spirituel. Quand je cherche une définition hyper synthétique de la religion, ce sont les mots que je prononce. Institutionnalisation sociopolitique du spirituel. Et du moment qu'on a cette institutionnalisation sociopolitique du spirituel, il y a des dimensions identitaires, il y a des phénomènes majoritaires qui se mettent en place et qui font que les minorités sont souvent sous pression. Et au fond, je crois que c'est l'une des façons de répondre en peu de mots à ce qui, à votre question sur ce qui peut advenir aujourd'hui, notamment au Myanmar, donc en Birmanie, face aux souffrances infligées aux Rohingyas, donc minorités musulmanes, sur la frontière finalement qui s'est stabilisée. On parlait tout à l'heure de ce grand mouvement d'expansion islamique au cours des siècles. L'expansion est allée jusqu'au Bangladesh, qu'on sait aujourd'hui un pays majoritairement musulman, et la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie est précisément le lieu où se trouvent ces minorités musulmanes du côté birman, c'est-à-dire en terre majoritairement bouddhiste. Et là, voilà, ces minorités-là subissent ces phénomènes de pression, sachant que là encore, on a le pire et le meilleur dans le bouddhisme, comme dans toute religion, comme dans l'homme au fond. Et on verra donc des moines ou supposés tels bouddhistes qui donc vont devenir propagandistes d'une haine islamophobe, comme Asin Weeratu, qui est le plus célèbre, son mouvement Mabata, qui a persécuté les Rohingyas. Mais on a aussi, au sein du Sangha, donc des communautés monastiques birmanes, l'inverse. On a des monastères bouddhiques qui ont protégé les Rohingyas. Pour dire au fond que finalement c'est symétrique. Ce sont toujours les mêmes problèmes, les mêmes violences qu'on retrouve de part et d'autre. La question du pouvoir, la question du politique, on doit constater au fond que ça éclaire aussi la longue histoire qu'on a racontée. Comment et pourquoi le bouddhisme a disparu d'un certain nombre de pays orientaux, c'était là où il était minoritaire en fait. Là où il était minoritaire et où, non soutenu par un système étatique, il a fini par disparaître. Et là, au contraire, où il était majoritaire ou bien soutenu, comme au Tibet, comme en Birmanie, par des régimes politiques, eh bien, il a survécu. Mais parfois aussi en se compromettant d'une certaine façon avec ces régimes, avec leur dimension de violence. Bon, donc voilà, on est en plein au fond dans la question du religieux et du politique, et c'est là où peut-être on peut aussi revenir à la chance au fond que nous avons de vivre en démocratie, de vivre dans une république laïque qui cherche une voie justement sans doute médiane, là encore une voie de respect et en même temps de tolérance et d'interconnaissance, pour faire en sorte que cette concorde puisse s'établir au bénéfice de tous, quelle que soit leur adhésion ou leur non-adhésion à une sagesse, à une spiritualité. Je pense qu'en effet, ce long parcours historique et aussi doctrinal nous amène à mieux estimer encore, s'il était nécessaire, notre laïcité républicaine.
Merci infiniment. Merci, cher Éric Vincent, d'être venu nous parler, vous qui dirigez l'Institut d'études bouddhiques, des relations aussi bien à travers l'histoire que maintenant entre l'islam et le bouddhisme. Et je dirais à nos amis auditeurs que c'était question d'islam, qu'ils retrouveront, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture, et ils peuvent la podcaster, la réécouter sur l'application Radio France. Les références des musiques et des livres sont sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Stéphane Touvenin. et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.